Vous êtes sur RTL. Jusqu'à 1h, parlons-nous. Sabine Calégari sur RTL.
Bonsoir, c'est Sabine Calégari à votre écoute. Si vous aimez le football, vous avez certainement retenu votre souffle pour votre équipe préférée ou votre nouvelle équipe préférée en l'absence de la France. Dans tous les cas, cet euro est de nature à nous procurer de la joie, une joie vraiment bienvenue après ces temps d'épidémie. De nature aussi à vous révéler beaucoup de choses sur l'être humain et plus précisément sur le mental humain. Et là, ça nous concerne tous. Comme l'écrivain Albert Camus l'avait dit, le peu de morale que je sais, je l'ai appris sur les terrains de football. À présent, c'est parlons-nous et nous allons chercher à apprendre de notre propre vie. Qu'est-ce qui vous interroge, vous soucie en ce moment? Qu'aimeriez-vous comprendre et solutionner pour vous-même? Jusqu'à 1h, l'antenne de RTL est à vous, au 09 69 39 10 11. Caroline et Paul reçoivent vos appels au standard et vous guident. Pour ceux qui préfèrent nous écrire et réagir, c'est par SMS au 64 900 code RTL ou sur la page Facebook de l'émission RTL-Parlons-nous. Avec Marc Bisset à la réalisation, on n'attend plus que vous. Bonsoir Sylvie.
Bonsoir Sabine, heureuse de faire votre connaissance.
Et bienvenue à vous.
Merci beaucoup.
Alors,
je vous appelle pour réagir au témoignage de Sophie hier soir.
Ah oui, donc Sophie, est-ce qu'on va rappeler un peu le témoignage de Sophie? Donc Sophie avait décidé de rompre avec ses deux parents il y a peu de temps, et bien qu'elle ait des raisons tout à fait fondées pour le faire, enfin, elle avait mûrement réfléchi la chose dans un cadre de violence familiale, elle avait une sorte de questionnement qui lui venait d'une culpabilité à quand même laisser ses parents comme ça. Et on avait eu un échange pour plutôt la soutenir dans sa décision, lui dire qu'il n'y avait pas d'autre solution pour qu'elle soit, elle, dans le bien-être, ce qui n'empêchait pas éventuellement de tenter quelques contacts à minima. Donc voilà pour Sophie hier. Et vous donc, oui. Sylvie, qu'est-ce que vous soutenez?
Ça a fait résonance du coup avec mon histoire, puisque ma maman a eu 12 enfants et mon père a eu un enfant de son côté. Donc j'ai 11 frères et sœurs du côté de ma mère et un frère du côté de mon père. Il se trouve que sur cette grande famille, je ne suis en contact qu'avec deux de mes sœurs. Parce que, déjà, il y a beaucoup d'écartage. Et puis parce que, en grandissant, je me suis rendu compte de toute la malveillance et de tout l'égoïsme et de, enfin voilà, moi aussi j'ai grandi dans un contexte très violent sur fond d'alcool et vraiment de méchanceté et d'égoïsme. Et donc très vite, quand j'ai 18 ans, je suis partie, j'ai fui géographiquement dans un premier temps et puis psychiquement c'est plus difficile, même encore maintenant à 42 ans. Mais en tout cas, j'ai fait le choix de me protéger des personnes qui ne me veulent pas forcément du bien, ou en tout cas qui ne se réjouissent pas pour moi de ce qui m'arrive dans ma vie. Et donc, c'est tous ces frères et sœurs que j'ai, et je n'ai pas de nouvelles de leur part. C'est un travail que j'ai dû faire sur de longues années, mais au final, c'est un choix qui me rend heureuse maintenant, parce que j'ai deux de mes sœurs avec qui j'ai des relations... avec lesquelles j'ai des relations de qualité.
Elles ont rompu, elles aussi, avec le reste de la fratrie?
Alors, elles ont... Oui, elles sont... Oui. Enfin, disons qu'elles ont rompu. J'ai une de mes sœurs qui reste un peu en contact avec les autres. Donc, j'ai des nouvelles du fait comme ça. Et je sais que ça reste toujours la même chose. Enfin, voilà, les contextes... Par exemple, j'ai une sœur qui déménage quasiment tous les 6 mois parce que dès que le loyer n'est pas payé, dès que ça... C'est un peu chaud, elle déménage. Enfin, y a toujours, ça a toujours été ça, en fait. De l'alcool, de la violence, des vols. Enfin, c'est vraiment une vie que je ne comprends pas et que je ne m'explique pas. Enfin, c'est quelque chose... comment est-ce qu'on peut vivre comme ça en étant en permanence qui-vive et ne pas avoir envie de paix. J'ai du mal à comprendre ça.
Et vous pensez que tout ça venait de vos parents? C'est-à-dire que vos frères et sœurs se sont trouvés dans cette situation parce qu'ils étaient eux-mêmes livrés à eux-mêmes ou...
Oui, c'est ça. Ils ont reproduit en fait ce qu'ils ont vécu, ce que nos parents... On n'a pas tous le même père, en plus. Certains ne savent pas qui est leur père. Enfin, c'est assez compliqué, mais...
Oui,
tout le monde a vécu dans la violence, dans la souffrance aussi, du coup. Hein, et deux de mes sœurs et moi, on est toutes les trois, et on discute, et on se raconte ce qu'on a vécu. Et comme si les autres n'avaient pas... enlever cette espèce de voile de leurs yeux et qui subissaient en permanence leur histoire.
Là,
ça nous rend malheureuses, mais on a décidé qu'on arrêtait de se battre pour eux aussi, parce qu'il y a des moments où on a essayé. Il y a une de nos sœurs qui est dans... on est quatre filles en dernier, et donc il y a une de nos sœurs qu'on a essayé de
sauver d'une certaine façon.
Oui, voilà, d'être en contact avec elle, etc. Et il n'y a rien à faire. C'est une femme soumise. On est à peu près sûr qu'elle s'est fait violenter par son mari. Elle n'a jamais pu passer son permis. Elle est dans la soumission totale et on est persuadé qu'elle n'est pas heureuse. Mais on a beau lui avoir tendu quelques perches, on a dit stop. Bon, maintenant, on s'occupe de nous et... on se réjouit de ce qui nous arrive dans nos vies, et puis dans les autres, tant pis. Enfin, il y a un moment donné, quand je pensais à Sophie, justement, je me disais, mais pourvu qu'elle ne culpabilise pas, parce que la vie est tellement courte, le temps des lamentations, ça va un temps. Ok, on a du recul sur son histoire, on comprend ce qu'on a vécu, quand on peut avoir accès à ça, en tout cas. Et puis à un moment donné, c'est stop. Moi, j'ai construit ma famille, c'est mes sœurs, mais c'est mon mari, c'est mes enfants. Et je ne veux pas laisser de place à des personnes qui ne me veulent pas du bien, qui ne se réjouissent pas des choses qui peuvent m'arriver de bien et qui ne pleurent pas avec moi quand je suis triste. Enfin, voilà. Et malheureusement, ce sont mes frères et sœurs qui sont comme ça. Donc, qu'ils soient mes frères et sœurs, mes parents ou des gens que je ne connais pas, enfin voilà, j'ai pris mon parti de me dire, bon, même si on est lié par le sang, on n'est pas lié par une volonté.
Par une ressemblance, même quant à votre position dans l'existence. Parce que là, il y a une sorte de miracle pour vous, Sylvie. C'est que, hélas, la plupart de vos frères et sœurs sont restés dans une forme d'errance, enfin, ont eu du mal à se guérir. Et vous, vous avez trouvé un équilibre. C'est une forme de miracle pour vous et pour vos deux sœurs. C'est un miracle subjectif, j'allais dire. C'est le mystère de l'être. C'est, vous avez, vous, pu trouver les ressources pour ne pas être contaminée par cette violence, cette errance
Mais depuis toute petite, je savais. J'ai un souvenir impérissable. Je suis dans un... Alors, ça fait très Cosette, je suis désolée, c'est pas le but, mais je sais que c'est le déclencheur. J'étais dans un petit placard, planqué le temps que l'orage passe, parce qu'il y avait des orages très souvent dans la maison, et moi, je me faisais toute petite. Et puis, j'attendais et je me disais, mais moi, quand je serai grande, je ne veux pas du bruit comme ça dans ma maison. Et je me souviens, je ne sais pas quel âge j'avais, mais je me disais ça toute petite. Mais moi, je ne veux pas plein de monde et je ne veux pas plein de bruit comme ça dans ma maison.
En fait, vous savez, à titre de ressource aussi pour ceux qui nous écoutent, il y a une phrase de Lacan qui dit qu'on se défend du réel au moyen de l'imaginaire. Et c'est typiquement ce que vous avez fait, c'est que vous étiez face à un réel horrible, enfin un réel insoutenable dans ces moments où vous étiez dans ce placard. Et au fond, vous vous êtes protégé de ce réel au moyen de votre imaginaire, vous vous êtes évadé dans l'image future qui représentait ce que vous désiriez pour votre vie, et c'est en vous projetant dans cette image que vous avez activé les ressources de l'imaginaire et que vous avez pu ne pas sombrer dans ce réel-là.
Oui. Et je me suis créée, je me souviens, pas mal de choses comme ça pour m'aider. Quand j'étais ado, j'adorais Jean-Jacques Goldman. Oui. Et je me disais, un jour, il va venir me chercher, on va découvrir que je suis sa sœur. Enfin, vous voyez, je me suis tenue à des choses un peu loufoques comme ça, mais ça m'a aidée, c'est vrai. Ça m'a aidée parce que je m'étais créée d'autres
scénarios, d'autres fictions.
D'autres personnes, d'autres références en fait, enfin, des gens qui avaient des vies plus saines, qui pouvaient être heureux. Et je pense qu'à travers la musique, j'ai pu aussi expérimenter ça, avoir de la joie et ça m'a aidée. Ouais, ça m'a aidée. Et donc voilà, je voulais dire à Sophie que vraiment, c'est pas arrivé avec mes. Enfin, j'ai fait une rupture comme ça avec mon père, pas avec ma mère. Mais avec mon père, je l'ai faite parce que c'était impossible de. Enfin, on n'était pas du tout sur la même planète.
Hein. Donc, lui, on rappelle par rapport à Sophie, elle avait rompu avec ses deux parents. Et vous, donc, voilà, seulement avec votre père.
Moi, ma mère, on a une grosse différence d'âge. Elle m'a eu tard puisque je suis la 12e. Et en fait, avec ma mère, j'ai pris le parti de laisser de côté tout ce qui avait pu se passer. Parce qu'en fait, quand je suis devenue moi-même maman, ma mère a changé. Elle a été une super grand-mère. Elle a été une mère en dessous de tout, j'ai envie de dire. Mmh. Mais elle a été une grand-mère superbe. Elle a vraiment été adorable avec mes enfants. Et puis, elle a été super avec moi aussi. Alors, c'est comme ça.
Donc, pareil, la position de mère et de grand-mère. Oui. On sait qu'une position de mère, c'est la difficulté d'être parent. Ça renvoie toujours aux conflits et aux douleurs non résolues de notre propre enfance. Il y a une sorte de réactivation du côté de l'inconscient quand on est parent. En revanche, quand on est grand-parent, c'est pas du tout la même problématique. C'est que il n'y a pas cette réactivation. C'est un rôle tout à fait différent. Donc, on peut effectivement être un excellent grand-parent en ayant eu des difficultés comme parent. Vous avez raison de le souligner.
Oui, tout à fait. Du coup, ça a suffi pour me réparer, moi, en tout cas auprès de ma mère.
Sylvie, je vais vous interrompre un instant, on va marquer une petite pause, le temps de la formation, et surtout vous ne quittez pas, on se retrouve juste après.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure. Et donc je rappelle le numéro de l'émission pour témoigner, n'hésitez pas à nous appeler pour tous les sujets, 09 69 39 10 11, tous vos appels sont bien.
Jusqu'à 1h, parlons-nous. Sabine Calégari sur RTL.
C'est Parlons-nous, l'émission qui reçoit en direct vos questions et ouvre des voies pour les résoudre. Quel que soit le thème qui vous préoccupe, qui vous interroge, n'hésitez pas à nous appeler pendant une heure encore au 09 69 39 10 11. Et nous retrouvons Sylvie.
Oui,
Sylvie, donc vous étiez en train de réagir au témoignage de Sophie hier qui avait pris la décision, un peu la mort dans l'âme, de rompre avec ses parents qui, pour ne plus subir ce contexte de violence. Et vous nous parliez, vous, de votre propre décision de rompre avec votre famille, aussi avec la plupart de la fratrie. Vous avez une grande fratrie de 11 frères et sœurs. Vous avez gardé des contacts avec vos deux sœurs et vous expliquez donc comment vous aviez été amenée à prendre cette décision et surtout comment vous aviez évité de sombrer dans ce contexte si difficile.
Oui, c'est ça.
Oui.
Et ce n'est plus un problème maintenant. Ça fait plusieurs années que j'ai pris cette décision et ça va. Parce que comme je vous disais, à travers une autre sœur, j'ai des fois de leurs nouvelles sans forcément demander, mais elles m'en donnent.
Oui.
Et leur situation ne change absolument pas.
Oui.
Ce qui se passe, c'est que leurs enfants sont aussi dans ces situations-là. Pas tous, mais certains.
Vous voyez que ça se transmet déjà à la génération suivante.
Oui, et je me dis heureusement qu'on n'habite pas près les uns des autres, parce que moi je suis famille d'accueil. Je pense que j'aurais certains de mes neveux et nièces en famille d'accueil chez moi. Parce qu'il y a des placements, je sais qu'il y a des placements. Et mes sœurs d'ailleurs ont fait un signalement parce que j'ai un neveu qui gère pas bien son enfant. Et qui vit dans un contexte de drogue, d'alcool, le bébé, est dans le baigne là-dedans, dans les violences conjugales, et du coup mes sœurs n'ont pas supporté et elles ont fait un signalement.
Et aucune de vos sœurs ou aucun de vos frères n'a envisagé de se faire aider en voyant que leur vie partait comme ça à volo, enfin qu'il y avait autant de drames et autant de catastrophes.
Alors mes deux sœurs, oui, elles ont fait un suivi. Oui. Moi aussi d'ailleurs, que je fais toujours.
Et, vous avez fait un long travail.
Oui. Moi j'ai démarré au décès de ma maman, en fait, il y a 3 ans.
Oui.
Mais j'avais déjà tout ça en place dans ma vie depuis longtemps, le désir de ne plus être en contact avec eux. Je pense que mon mari aussi m'a beaucoup aidée. Parce que lui vient d'une famille complètement différente, c'est-à-dire à peu près structurée, avec deux parents aimants, des parents qui lui donnent ce qu'il faut comme outil sur le plan psychologique, affectif, matériel pour grandir.
C'est peut-être pour ça que vous l'avez choisi aussi.
Oui, sûrement. Oui.
Ça doit faire partie des mouvements de survie et puis des ressources vitales chez vous, d'activer vos propres ressources, mais de savoir, consciemment ou inconsciemment, parce que c'est ça aussi l'inconscient, choisir un mari qui représentait lui aussi qui était du côté de votre désir de vous en sortir.
Tout à fait, ouais. Oui. Et par bien des côtés, je crois qu'il m'a pas mal éduquée en fait.
Qu'est-ce que vous entendez par éduquer ?
Eh ben, le langage, par exemple. Quand on s'est rencontrés, j'avais 17 ans, il en avait 20. Alors, je voulais passer mon service militaire, je crachais, je jurais, je voulais une moto. Voilà.
Ah, vous étiez identifiée à une position masculine, en fait ?
Pas forcément masculine, mais je pense que je savais que j'avais besoin de cadre. J'avais besoin pour moi, le service militaire, c'était des horaires fixes, c'était bien manger, c'était faire du sport.
Est-ce que c'était seulement du cadre, Sylvie, ou vous pensez aussi que c'était des attributs de puissance ? Parce que comme vous aviez certainement vécu dans la peur, vous pouviez être tentée de vous attribuer,
m'armer, ouais.
Exactement, de vous armer. On ne peut pas mieux dire, d'ailleurs, par rapport.
Oui. Oui, je pense, ouais. Oui, sûrement. Et j'ai rencontré mon mari, j'ai passé mon service militaire, j'ai arrêté de cracher par terre. J'ai arrêté de cracher par terre, ça l'insupportait.
Oui, il avait envie d'avoir une femme. Ou plus exactement, peut-être qu'il a vu chez vous la femme au-delà de ses comportements plus masculins. Peut-être qu'il a su, lui, avoir l'intuition de ça.
Oui, peut-être, oui. En tout cas, je me suis sentie aimée. Le fait de me sentir aimée, ça m'a donné des ailes. Ça, c'est évident. J'ai rencontré sa famille. Je me sentais super bien. J'ai trouvé ça formidable. Je savais pas qu'on pouvait vivre comme ça. Passer un repas à table sans se disputer, bien se parler, déjà communiquer aussi. Préparer à manger ensemble, rester traîné dans le canapé, enfin voilà. Et puis pas d'alcool, comme moi j'ai connu, une maison bien tenue, enfin voilà, c'est du détail, mais...
C'est pas du détail, c'est tout ce qui humanise la vie, parce que dans les traits que vous citez dans votre famille, il y a quelque chose de presque sauvage dans cette violence.
Oui, et là, c'est la jungle.
Ben oui, là vous parlez de ce qui humanise la vie. Tout ce qui fait de nous des êtres humains qui sommes sensibles à la beauté, à l'harmonie du cadre de vie, à la douceur dans les discussions, à l'harmonie entre les personnes. Je crois que c'est vraiment ce qui fait notre humanité. C'est loin d'être des détails.
Oui, c'est vrai.
Oui. Et je vous sens aussi perplexe. Enfin, il me semble que vous êtes extrêmement déterminée dans la voie qui consiste à aller bien, à construire, à aller du côté de vos forces vitales. Mais je vous sens perplexe aussi, comme si vous demandiez comment c'est possible que certains de vos frères et sœurs ne trouvent pas la voie ou restent à ce point fixé dans leur situation. Est-ce que c'est juste de dire ça que... Il y a une part de vous qui parvient pas à comprendre ça.
Non seulement je le comprends pas, et puis ça me rend triste.
Oui.
parce que cette coupure, elle n'a pas été sans difficulté.
Et peut-être c'est pas d'un bloc, ça a peut-être été alternatif ou progressif par...
Oui, ça a été un travail de plusieurs années. Ça fait pas tellement longtemps, hein, d'ailleurs, que je peux dire. Je l'ai dit à ma psychologue il y a pas très longtemps. Mmh. Je lui ai dit, vous savez, si l'un d'eux se présente devant ma porte, je suis capable, émotionnellement, de ne pas ouvrir parce que je sais que sinon je laisse entrer
le chaos. Ça,
voilà, et j'aurai 6 ans à nouveau. Bah, oui. Et je ne pourrai pas me défendre.
Bah, oui. Elle vous a soutenu, j'imagine, votre psychologue.
Oui, bien sûr.
Bah oui, parce que dans l'éthique des professions psy, au sens large, enfin, celles qui soutiennent l'être humain, dans cette éthique-là, il y a que nous avons d'abord un devoir envers nous-mêmes de nous donner des conditions de vie humaines, d'essayer d'être heureux et de surtout d'honorer la vie en nous, de ne pas aller du côté de la destruction. Donc je pense qu'elle a dû vous soutenir beaucoup dans ce sens-là.
Oui, oui, oui. Et c'est là aussi où je suis perplexe vis-à-vis de moi-même. C'est bon, j'ai réussi à me sortir de tout ça, mais je sens encore des faiblesses. C'est-à-dire que, voilà, comme je vous disais, si je devais croiser quelqu'un de ma famille, je pense que j'aurais 6 ans à nouveau. J'aurais du mal à. Peut-être que j'arriverais à dire des choses pour me protéger, mais je sens que ce serait très difficile et avec beaucoup de fébrilité, enfin quelque chose de difficile, ouais. Je suis pas encore super armée, j'ai pas l'armure encore, je pense.
Je suis pas sûre que l'armure ce soit un idéal intéressant pour un être humain, parce que ça signifierait finalement que si des événements dramatiques avaient le pouvoir de nous transformer en robots, ils auraient pris le dessus sur nous, ces éléments dramatiques. En fait, ce que vous dites, c'est ce qui fait aussi notre humanité, c'est que l'enfant de 6 ans en vous est encore vivant, de même que l'adolescente qui s'est sortie de là, de même que l'adulte qui a construit son mariage. Toutes ces dimensions de votre humanité existent. C'est ce qui vous donne une fragilité. Enfin, c'est comme ça que vous le ressentez. Mais c'est aussi ce qui vous donne votre richesse. Vous n'êtes pas obligé d'abandonner une partie de vous pour vous endurcir. Donc, oui, je ne crois pas que l'objectif de... En tout cas, dans la thérapie, puisque vous connaissez ça, l'objectif n'est jamais de transformer un être humain en robot blindé, de sorte qu'il ne souffre plus jamais de sa sensibilité et qu'il vive sans faille. C'est faire, au contraire, exactement ce que vous avez fait, vous. C'est avancer avec ses failles en pouvant en permanence faire des choix. Parce que c'est ce que vous faites quand vous dites « je n'ouvrirai pas ma porte au risque de sombrer », vous faites en permanence des choix qui honorent la vie, enfin, qui vont du côté des forces vitales.
Oui. Non, parce que je sais que je vais laisser rentrer un langage qui n'est pas le mien, une attitude, un manque de respect évident. Déjà, j'ai pas d'alcool chez moi, donc déjà, ça serait très mal perçu. Enfin, vous voyez, il y a des choses. On n'est vraiment pas sur les mêmes.
C'est pas compatible.
Non, on n'est pas sur les mêmes codes, les mêmes façons de vivre. Et j'en suis triste parce que j'ai des frères et sœurs qui méritent sûrement d'être connus par moi, par d'autres, et qu'ils ont une valeur aussi. Oui. Mais cette valeur n'a pas pu émerger.
Bah oui.
C'est ça.
En fait,
ils ont des talents, ils ont des capacités, je le sais. Mais leur histoire leur échappe.
Au fond, votre témoignage est extrêmement précieux, Evie, parce que ça permet de mettre en lumière ce que c'est que la résilience. Par exemple, dans votre fratrie, il y a une sorte de scission entre ceux qui n'ont pas pu s'en sortir et vous trois qui êtes parvenus à trouver l'issue. Et au fond, la résilience, c'est vraiment une qualité humaine qu'on a tous en puissance, mais qu'on ne peut pas tous activer. La résilience, c'est cette capacité de s'adapter en permanence à un contexte, y compris difficile, comme celui de votre contexte familial, en restant toujours en dessous du seuil traumatique. Donc ça, c'est une définition de la résilience très adaptative, en fait. Ça met en lumière les formidables capacités d'adaptation de l'être humain. Et je crois que vous, c'est et vos deux sœurs, celles qui s'en sortent bien comme vous, c'est exactement ce que vous avez su faire. Activer cette résilience, c'est-à-dire vous adapter en permanence au contexte, convoquer des ressources du côté de l'imaginaire, par exemple, pour tout le temps rester en dessous du seuil traumatique. Donc vous n'avez jamais été ravagée au point que votre être soit abîmé et que votre avenir soit barré. Et c'est parce que vous avez activé ça très tôt, cette résilience, vous avez, enfin, ça fait partie de vous, je pense que vous n'en étiez pas forcément consciente, c'est cette possibilité qui a préparé la possibilité de la rencontre de votre mariage et de la construction et d'une guérison plus complète. Ça, c'est, oui. C'est vraiment un attribut tout à fait fondamental de l'être humain. Nous l'avons tous à titre de potentiel et parfois nous parvenons à l'activer en nous appuyant sur différentes choses. Bon, pour vous, l'imaginaire est sûrement des ressources vitales particulières et d'autres personnes, donc vous parliez de votre fratrie, de votre peine de les voir comme ça, ne parviennent pas à activer cette ressource-là. Et pourtant, vous avez raison, elle existe. Ils ont aussi cette valeur-là en eux. Alors peut-être qu'un jour, ils croiseront l'événement où se produira la prise de conscience qui permettra que cette ressource-là s'active. C'est jamais désespéré quand il s'agit des êtres humains. En revanche, on ne maîtrise pas quand ça peut se produire et c'est en effet pas vous qui pouvez les sauver.
Ah non, puis j'en ai pas... Non, j'en ai pas les épaules et... C'est pas mon rôle. Enfin,
oui.
Malgré tout, voilà, l'affection. Enfin, je sais pas si j'ai de l'affection, mais en tout cas, oui. Enfin, si, je pense qu'il y a une forme d'affection, mais j'ai tellement peu de souvenirs. Il y a un écart d'âge assez important, donc. Enfin, les seuls souvenirs que j'ai, c'est pas des souvenirs hyper intéressants. Donc,
oui. Il y a de l'affection, mais pas de connivence.
Oui, c'est ça. Ouais. Oui. Après, c'est ce fond d'alcool, quoi. C'est terrible. Hein. Pour ça aussi que chez moi, il n'y a pas d'alcool et que c'est un des critères quand j'avais rencontré mon mari. Je lui ai dit, tu sais, chez moi, il n'y aura pas d'alcool. Donc,
Oui. De votre histoire demeure certainement ce qu'on appelle en psychanalyse l'insupportable. C'est qu'il y a des dimensions pour vous qui resteront du côté de l'insupportable. Tout ce qui doit toucher effectivement à l'alcool, à la violence, ça c'est la cicatrice en fait qu'a laissé votre histoire. Et ce n'est pas forcément problématique parce que l'insupportable, on peut l'éviter dès lors qu'on fait des choix.
Mm-hmm.
En tout cas, Sylvie, ce que je trouve également très précieux dans ce que vous exprimez, c'est cette absence de culpabilité que vous transmettez aussi à Sophie. Et il me semble, vous allez me dire si ça vous paraît juste, mais que c'est souvent le fruit d'un beau travail en thérapie. Souvent, la marque d'un travail en thérapie, c'est que cette culpabilité qui nous fait retourner contre nous la violence qu'on a subie s'en va. Et remplacé par quelque chose d'autre qui est une forme de lucidité. Mais en tout cas, enfin, je ne sais pas si vous attribuez ça à votre parcours en thérapie. En tout cas, c'est très frappant chez vous qu'il n'y a pas cette culpabilité néfaste.
L'étayage de la psychologue est très important. Ouais, toute seule, je ne pense pas que j'aurais réussi à faire tout ça, à élaborer. Déjà, d'avoir ce lieu pour en parler, c'est indispensable parce que j'ai pas envie d'inonder mon entourage, mes amis et encore moins mon mari de ça. Enfin, il y a un lieu pour ça et pour moi c'est vraiment dans ce cabinet et que j'aime beaucoup ma psychologue. Elle est très gentille et elle a le prénom d'une de mes sœurs en plus.
Ah bon? Et ça aussi sœurs, c'est l'inconscient, ça s'invente pas.
Oui.
L'une des sœurs avec lesquelles vous vous entendez, j'imagine.
Oui. Ah oui, alors sinon ça aurait été rédhibitoire.
Ah, on ne sait pas parce que parfois aussi l'inconscient nous fait signe pour nous permettre de guérir quelque chose ou de changer un destin. Mais en tout cas pour vous, ça s'est fait comme ça. Ça s'est fait.
Oui. Oui, non, vraiment, pour moi, le soutien psychologique, c'est vraiment c'est une béquille dont j'ai besoin. Et je pense que même si je n'avais pas cette histoire-là, j'ai quatre enfants, de 16 ans à 4 ans, et j'ai facilement ce réflexe-là, s'il se passe quelque chose dans leur vie, de leur dire, est-ce que tu veux qu'on aille, est-ce que tu veux aller discuter avec quelqu'un un spécialiste qui peut comprendre tes émotions, qui peut comprendre tes mots mieux que maman ou papa.
Donc il y a cette culture-là maintenant dans votre famille.
Oui,
La culture de la parole, enfin de la parole qui guérit.
Oui, oui.
En tout cas, Sylvie, il y a des très beaux messages qui arrivent par SMS où les différents auditeurs donc, captent la beauté de votre trajectoire. Donc, il y a Stéphane qui dit hein, « Un enfant de 6 ans avait une armure que votre mari a su ne pas... Oui, par laquelle il a su ne pas être arrêté ou même effrayé. Aussi, vous méritez votre nouvelle famille. »
C'est gentil.
Et un autre Stéphane, donc un homonyme, dit « ça a dû être une véritable bouffée d'oxygène », qui parle de la bouffée d'oxygène, de la rencontre aussi. Donc là, il y a vraiment des termes très, très vitaux qui sont là dans les messages. Donc je crois que ça donne beaucoup d'espoir et ça montre que quelles que soient les tragédies, il y a une possibilité de guérison et même de bonheur. Enfin, vous semblez l'incarner.
Eh bien, c'est gentil.
Merci Sylvie pour votre témoignage. Merci, je me permets de vous remercier aussi au nom de Sophie, peut-être elle nous écoute. Et je vous souhaite une très belle continuation.
Merci et bel été à vous, Sabine.
Merci beaucoup. Au revoir Sylvie.
Jusqu'à 1h, parlons-nous. Sabine Calégari sur RTL.